إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن الحياء من الأخلاق الجميلة والصفات الجزيلة التي جاء ديننا بالحث عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم إن الحياء خصلة حميدة وخلق كريم اتصف به أكرم الناس وأتقاهم وأحسنهم خلقا فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال في عثمان رضي الله عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رواه مسلم والحياء خير كله لا يأتي إلا بخير فعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير وأنه عليه الصلاة والسلام قال الحياء كله خير الحياء خير كله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي وصححه الألباني عباد الله إن من وفق للحياء وفق لعظيم ومن حرم الحياء حرم خيرا كثيرا فالحياء يحمل صاحبه على فعل ما يزينه ويكفه عن فعل ما يشينه واعلموا أن الحياء يكون بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ويكون بين العبد وبين الناس فحياء العبد من ربه عز وجل يحمله على فعل أمره واجتناب نهيه فيستحي من ربه أن يفتقده حيث أمره أو يراه حيث نهاه فيجتنب المعاصي في أقواله وأفعاله وجميع أحواله في حال حضوره مع الناس وغيبته عنهم وإذا خلا بمحارم الله منعه خوفه وحياؤه من الله سبحانه وتعالى أن يوقع المعصية يقول الشاعر إذا خلوت بريبة في ظلمة إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عباد الله، إن من لم يستحي من الله تجرأ على محارمه وانتهك المعاصي في الخلوات، وويل لمن هذه صفته. فعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، ويجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجة. وقال الألباني: صحيح. وأما الحياء الذي بين العبد وبين الناس فإنه يكفه عن فعل ما لا يليق به، فيكره أن يطلع الناس منه على عيب ومذمة، فيجتنب القبائح ودنيء الأخلاق، ويبتعد عن كل سيء الأقوال والأعمال، فلا يكون سبابا ولا نماما ولا مغتابا، ولا يكون فاحشا ولا متفحشا، ولا يجاهر بمعصية، ولا يتظاهر بقبيح. عباد الله، ومن سلب الحياء لم يمنعه من ارتكاب القبائح مانع. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. ومعناه أن من لم يستحي صنع ما شاء من القبائح والنقائص، وهذا مشاهد في من قل حياؤه أو فقدوه، فلا يتورعون عن محرم، ولا يخافون من إثم، ولا يكفون ألسنتهم عن قبيح، ولا أبصارهم عن عورة، ولا أسماعهم عن لهو ولهو، قل حياؤهم فكثرت فيه المنكرات، وظهرت العورات، وقلت الغيرة على المحارم، حتى وجد من الناس من يحمل في جواله المقاطع المخزية يتناقلها مع أصحابه، ووجد من الناس من يدخل الروابط الخليعة وربما يعرضها في بيته أمام نسائه وأولاده، ومع ما فيها من مناظر الفجور وقتل الأخلاق وإثارة الشهوات والدعوة إلى الفواحش والمنكرات، بل وجد منهم من يفتخر بقلة حيائه ويجاهر بفضائحه، ومثل هذا قد يختم على قلبه فلا يوقظه إلا نار جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. عباد الله، وإذا كان الحياء مظلوما أو مطلوبا من الرجال، إذا كان الحياء مطلوبا من الرجال فهو في النساء أعظم، بل هو أمر طبيعي ولا بد منه، لأن هذا هو الأصل في المرأة، وهذا الخلق العظيم موجود في نسائنا ولله الحمد، ولكن مع ذلك فقد كثر ترك الحياء في النساء أيضا، ولذلك صور، فمنها التساهل في أمر اللباس، فتجد من النساء من تلبس الضيق أو القصير أو الشفاف أو الثياب المشابهة لألبسة الرجال أو لألبسة الكافرات أو الفاسقات. وتهاون كثير من النساء بما يلبسن وبما يلبسن بناتهن حتى صار مع الأيام أمرا عاديا. وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إننا إذا لم نقاوم هذه الألبسة ونمنع منها بناتنا فسوف تنتشر في بلدنا وتعم الصالح والفاسد كالنار إذا أطفأتها من أول أمرها قضيت عليها ونجوت منها، وإذا تركتها تستعر التهمت وما تستطيع مقاومتها ولا الفرار منها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن مظاهر عدم الحياء عند النساء كثرة كلام المرأة لغير محارمها من غير حاجة، بل مصافحتهم وربما ممازحتهم، وكثيرا ما يحصل هذا مع أقاربها من غير المحارم أو أقارب زوجها. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ فقال: الحم الموت. متفق عليه. ومن مظاهر قلة الحياء ما يحصل بين النساء بعضهن مع بعض من المزاح بالكلام أو الرسائل البذيئة عبر الجوال وغيره. ومن ذلك ركوب المرأة مع غير المحارم في أمور فيها خلوة، وذلك لا شك أنه مخالف للحياء. ولا تبالي بنظر الرجال إليها، بل ربما افتخرت بذلك. ومنهن من تسترت في الشارع، فإذا دخلت المحل أو دخلت البيت كشفت الحجاب أو دخلت في أماكن أخرى. وربما تجد بعض النساء سبحان الله تلبس الحجاب وعندها حساب في إنستغرام أو في في مواقع الاتصال، فتخلع الحجاب لتصور نفسها وتبث صورها لكل الناس أو المشاهدين في هذه المواقع، نسأل الله العافية، وهي تلبس الحجاب. فكيف هذا التناقض؟ الله المستعان. وربما دخلت محل وكشفت عن الحجاب أو بعد الحجاب أمام البائع أو أمام الرجال الآخرين وخدعت بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض ويحصل ما لم يكن بالحسبان. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي من ولاكم الله أمرهم، ولا سيما النساء التي جعل الله ولايتها ورعايتها على الرجال. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. عباد الله، واعلموا أن الحياء الممدوح إنما هو الحياء الذي يكف صاحبه عن مساوئ الأخلاق ويحمله على فعل ما يجمله ويزينه. أما الخلق الذي صاحبه يمنع صاحبه من السعي فيما ينفعه في دينه ودنياه، أو يمنعه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول: أنا أستحي أن أأمر بالمعروف، أستحي أن أنهى عن المنكر، أستحي أن أنصح الناس، هذا ليس من الحياء المحمود. أو يمنعه من السؤال عن أمور الدين ويمنعه من تطبيق سنة من السنن، فهو ضعف وخور وتخذيل من الشيطان وليس حياء شرعيا. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، ولتستحيوا منه حق الحياء، فإنه تعالى رقيب عليكم أينما كنتم، يسمع ويرى، يعلم السر والنجوى، لا يخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة. يقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور دالله، préservez-vous d'Allah، préservez-vous d'Allah et de son châtiment، préparez-vous pour sa rencontre au jour de la résurrection، le jour où nous serons tous debout devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Le soleil sera rapproché de nos têtes et chacun d'entre nous, hommes et femmes, va être comme Allah l'a créé lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Ils seront nus et non circoncis. Et tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, la chaleur et la sueur qui va descendre, qui est proportionnelle à leur péché et à leur situation. Donc il y en a pour qui la sueur va descendre jusqu'à leur cheville. Elle va monter jusqu'à leur cheville. D'autres, la sueur va monter jusqu'à leurs genoux. D'autres, la sueur va monter jusqu'à leur taille. D'autres, la sueur va monter jusqu'à leur poitrine. D'autres, jusqu'au cou. Et d'autres, même, ils vont se noyer dans leur sueur. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai qu'il fait chaud. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui contrôle la température, le climat et la météo. Donc on est satisfait de ce qu'il nous donne et de ce qu'il a prédestiné pour nous. Et peu importe la chaleur, on se rappelle que l'enfer est plus chaud. Yaqulu ta'ala, qul naru jahannam ashaddu harra. L'enfer est plus chaud encore, qu'Allah nous préserve. Serviteur d'Allah, le sujet de la khutbah est à propos de la pudeur, de la timidité, qui fait partie des comportements qui sont directement reliés à la foi. C'est-à-dire que tu peux mesurer la foi d'une personne en regardant son niveau de piété, son niveau de pudeur, son niveau de timidité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et sa timidité et sa pudeur vis-à-vis des autres. Plus une personne est pudique et timide, plus sa foi est grande. Et plus une personne, sa pudeur est faible et sa timidité est faible, plus sa foi est faible. Et lorsque le serviteur a la pudeur par rapport à son créateur, eh bien ça va faire en sorte qu'il va détester se trouver dans un endroit alors qu'il sait que son Seigneur n'aime pas qu'il soit à cet endroit-là. Également, il va être gêné devant son Seigneur de faire des choses alors qu'il sait que son Seigneur n'aime pas qu'il les fasse, ou de dire des paroles alors qu'il sait que son Seigneur déteste qu'il dise ces paroles-là. Donc, par pudeur et par timidité envers son Créateur, il va ajuster son comportement pour avoir un comportement pudique, pour avoir un comportement noble envers Allah Azza wa Jal. Et donc, ça va l'amener à ajuster son comportement, peu importe le milieu ou l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire qu'il va être gêné d'Allah Azza wa Jal et de faire des péchés, qu'il soit devant les gens, ou qu'il soit en privé lorsqu'il est seul et que personne ne le voit. Pourquoi? Parce qu'il sait que même s'il est tout seul dans le fin fond d'une grotte au centre de la terre et que personne parmi les êtres humains peut le voir, il sait que son Seigneur est en train de le surveiller et de le regarder. Alors, il va s'abstenir de faire ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal.
Ça, c'est la base de Al-Haya pour le croyant. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la pudeur, Al-Haya, kulhu khair. Il n'y a rien de mauvais dans la pudeur. Il n'y a rien de mauvais dans la timidité et dans la gêne vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne qui exhortait son frère par rapport à la pudeur. Il dit, toi, t'es trop timide. Et on entend ça aujourd'hui, des gens qui disent ce genre de choses. Ah, toi, t'es trop timide. Sois pas timide. Hein? Et chez les koufars, même c'est pire encore parce que pour certains d'entre eux, ils considèrent même la timidité et la pudeur comme étant une maladie psychologique. Et ils vont même parfois penser que si quelqu'un est pudique et timide, il a un problème. Il doit aller voir un psychologue ou un psychiatre. Alors que ça, c'est un élément de la foi. C'est un élément de l'Iman. Et même si quelqu'un, par exemple, parmi les koufars, il a trop de timidité, trop de gêne, ils vont lui dire, oh, prends un peu d'alcool, hein? Prends de la drogue, tu vas te dégêner, tu vas être plus cool, hein? Tu vas être moins timide. Donc, ils tuent leur nefs, leur conscience, ils la détruisent avec de l'alcool, justement pour briser cette haya qui fait partie même de la fitra de l'être humain, pour se permettre de faire les choses les plus laides et les plus immorales. Le mu'min, au contraire, non. Il ne veut pas tuer cette haya, il veut la faire vivre. Il veut l'agrandir encore plus. Et cette haya aussi, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va l'avoir aussi avec ses frères. Les uns envers les autres et aussi par rapport à la relation entre les hommes et les femmes, de faire preuve de pudeur et d'être pudique. Et ça se manifeste particulièrement chez les femmes dans la façon de s'habiller. La femme musulmane, elle se couvre avec des vêtements amples et des vêtements longs qui ne laissent pas paraître les formes de son corps, de la tête jusqu'à ses pieds. Ce n'est pas juste elle couvre ses cheveux, puis après elle met des manches courtes, ou elle porte des shorts, ou des leggings qui font dessiner la silhouette de son corps. Ça, c'est, dans ce cas-là, si elle met un foulard sur ses cheveux, ça ne va rien servir. C'est dans le sens que ça ne va pas remplir le rôle du hijab ou du djilbab, puisque le rôle du djilbab, c'est de couvrir le corps entier de la femme, de la tête jusqu'aux pieds. Donc ça, c'est très, très important, surtout parce que le fait de côtoyer des gens qui n'ont pas de pudeur et de fréquenter des gens qui n'ont pas de pudeur ou de vivre dans une société où les gens n'en ont pas, eh bien ça va avoir un effet et un impact sur les gens. Ça a un impact sur nous aussi. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Nous sommes tous affectés par notre environnement, qu'on le veuille ou non. Même si on s'imagine qu'on est imperméable à la société, même si on s'imagine qu'il n'y a rien qui nous influence de cette société, c'est tout à fait faux. On a tous des séquelles du fait d'avoir vécu dans cette société-là. Parce que c'est une société qui est établie et fondée sur le kufr, sur le shirk, sur la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et cette société-là, elle nous influence, nous qui vivons dedans, et elle influence aussi même les musulmans qui vivent dans les pays de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'invasion culturelle qui est en train de se passer et qui se passe depuis assez longtemps, même dans le monde entier. Tous les musulmans subissent ça. Ici, on le subit, et là-bas aussi, ils le subissent. Et on a parlé de la colonisation dans les pays musulmans. Ça a été un moyen aussi par lequel les koufars ont réussi à imposer leur culture dans les pays de l'islam. Et il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions, il y a eu des combats. Les envahisseurs sont sortis. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus colonisé? Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment indépendant sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique? On est encore colonisé de plusieurs façons. Et on ne sera pas décolonisé, on ne sera pas libéré de toutes ces influences culturelles qui sont en train d'envahir les pays, pas seulement les pays musulmans, mais même les pays non musulmans, à cause de la culture populaire qui se propage dans le monde. Les gens, ils se basent sur les séries, les téléséries, les films, les vidéos, la musique et toutes ces choses-là pour influencer leur vie. Et c'est là-dessus qu'ils tracent le chemin de leur comportement, de leur façon d'agir, qui a aucune haya dedans, il n'y a aucune pudeur dedans. Et les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, ils se réfèrent à ces choses-là comme référence pour se comporter dans leur vie. Et à cause de ça, notre barème d'acceptation de l'impudeur et de l'intimidité et de la honte et le rejet de al-haya, de la gêne, il est biaisé. On est corrompu sans même s'en apercevoir dans notre cœur, dans notre croyance, dans notre conception de la vie, dans notre façon de voir le monde. Tu vois des femmes musulmanes qui marchent en short, hein, qui laissent leur corps paraître dehors dans la rue, qui laissent leurs cheveux dans le vent, qui portent du maquillage et du parfum et qui marchent parmi les hommes. Et il n'y a personne qui considère parmi les gens de dire à cette femme-là, « Taqillah, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais ?» Hein? Il y a des femmes musulmanes, elles viennent à la mosquée sans hijab, les cheveux dans le vent, et elles montent leur corps, des vêtements qui laissent paraître leur forme. Elle rentre à la mosquée, elle met un foulard pour prier. Avant de sortir, elle l'enlève pour sortir dans la société. Il y a des frères, la même chose, ils font. Ils viennent avec des jeans. Tu vois ces jeans, c'est tellement serré sur son corps. A'oudou billah. Peut-être quand il prosterne, tu vois la moitié de sa aura qui apparaît. Et lui, il prie devant toi. Toi, tu ne peux même pas te concentrer dans ta salat. Hein? Parce que ça, c'est des choses dégueulasses. Tu ne veux pas voir ça pendant que tu pries à Allah Azza wa Jal. Puis il rentre à la mosquée, il va mettre un qamis. Aussitôt qu'il sort, il l'enlève. Pourquoi tu l'enlèves quand tu sors? T'as peur que les gens voient que tu portes un qamis? T'es gêné? T'as peur des hommes? T'es gêné des hommes? T'es pas gêné d'Allah Azza wa Jal? Notre gêne, elle est déplacée à notre époque. La femme, elle est gênée de porter le hijab, est gênée de craindre Allah, de pratiquer sa religion, mais de faire des péchés, elle n'est pas gênée. Ça veut dire que notre conception de al-haya, elle est corrompue. Et tant qu'on ne va pas réparer et corriger cette conception-là, eh bien, on va continuer à être dans un état misérable, comme l'état dans lequel nous sommes actuellement. Donc, il faut reformater notre façon de voir le monde, notre façon de voir la vie. Il faut vraiment se décoloniser individuellement et sur le plan social et sur le plan général aussi. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité-là en commençant par notre maison, en commençant par qu'est-ce qui rentre chez nous et qu'est-ce qui sort, de protéger nos familles de ces influences extérieures et de les éduquer comme il faut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.